Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, c'est très simple. On va accepter de rentrer dans la retraite d'une manière la plus simple qui soit. On va accepter de lâcher prise. On va laisser derrière nous tout ce que nous portons. On a plein de pauvreté. On arrive avec toutes nos pauvretés, toutes nos misères, avec toutes nos limites, avec tous nos problèmes, etc. Bon, je vous en passe. On est quand même lourd. Hein. On stagne. C'est vraiment la bête. C'est l'âne qui n'avance pas. Et pourtant, il avance. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas de désir, mais il n'avance pas. L'âne est têtue. Il y a quelque chose dans notre cœur qui n'avance pas. C'est terrible ça. Pourquoi? Parce que on a des tas de pauvreté. Nous avons des pauvretés de fait. On a honte. On est pris par la honte, on est pris par l'angoisse, on est pris par la culpabilité, on est pris par des phénomènes d'inhibition invraisemblables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance, et parce qu'on ne nous fait pas confiance, parce qu'on ne nous a pas fait confiance. Vous savez, quand quelqu'un ne vous fait pas confiance, vous savez ça dans l'éducation des enfants, vous ne faites pas confiance, et du coup ça produit des phénomènes d'inhibition. Or, la société dans laquelle nous vivons, ne fait pas confiance à l'homme. Et c'est pour ça que nous engendrons une génération inhibée. Inhibée sur le point de vue humain, sur le point de vue de la vie contemplative, la recherche de la vérité, sur le point de vue, si vous voulez, des valeurs qui font que l'homme est au-dessus de tout, qui est unique, qui peut s'unir à Dieu, qu'il est capable d'extase, qu'il est capable de créateur d'éternité dans l'union avec Dieu. Oui. Ce qui fait la dignité de l'homme, tout ça. Inhibition. Pourquoi inhibition? Parce que la société qui a l'autorité sur nous, qui joue le rôle de la mère, qui joue le rôle de l'autorité, n'a aucune confiance dans l'homme. Les papes, et erreur, de dire aux jeunes qu'il a confiance dans l'homme. Même s'il est vieux. Vous savez que l'espérance est une chose très importante. J'ai pas besoin de vous faire une très longue introduction, parce que ce que je voudrais, que ce soit surtout très... j'aurais beaucoup aimé que ce soit très... qu'on perde pas une seconde, quoi. Qu'on ne perde pas une seconde. Je voudrais ça, moi. Je voudrais que pendant une semaine, on carbure, quoi. Que ce soit vraiment pour nous une retraite à 100 km à l'heure, quoi. Qu'on aille vraiment à la lumière, à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Et c'est très important parce que l'espérance, on le verra ça, l'espérance nous met dans la lumière. L'espérance nous met vraiment dans la lumière. L'angoisse, l'inhibition, ça c'est des phénomènes d'obscurité. On est dans les ténèbres. Le démon, il veut nous décourager avec ça. Tu n'avances pas, il fait nuit. Surtout, va pas quand même évangéliser dans les rues. Enfin, tu vas te faire... quand le pape organise un voyage, n'est-ce pas? On dit, c'était ça. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il dit, mais dans les années 80, 82, etc. Je dis, ah, au Vatican, les évêques, je dis, mais n'y allez pas, ça va être une catastrophe. Enfin, à chaque fois... Il y avait des milliers de personnes qui disaient « Monstre Saint-Père, n'allez surtout pas là, ça va être un four complet !» Alors là, ils disaient toujours À chaque fois. C'est une fourre complète. Ce n'est pas une fourre complète. Ça, il est... À chaque fois, il faut être non pas dans la potentialité, se ramasser dans ses puissances en étant dans un état d'attente, il faut être en acte. Ça, c'est la philosophie du pape, ça. C'est un philosophe de l'acte. Être en acte, c'est-à-dire être en plénitude. Être en acte. Passer de la puissance, je peux, à l'acte, tout le temps. Être tout le temps en état de plénitude. Tout le temps à foncer. Tout le temps. Tout le temps en état maximum de ferveur. Tout le temps en acte. Dans ce qui va caractériser ce qui rate l'espérance de la sixième église, l'église de Philadelphie, sixième église, ceux qui ratent tombent dans la septième église, l'Odyssée, ils deviennent tièdes. Alors on se vomit soi-même. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Tandis que l'église de Philadelphie, la sixième église, celle qui est, au fond, l'église, la nôtre, au fond, d'une église où il faut qu'on soit en état de ferveur et de pauvreté totale. L'église de Philadelphie, c'est formidable. C'est l'église de Thérèse de Lisieux, c'est l'église du docteur de l'église, Thérèse de l'enfance, de la toute petitesse. C'est l'église de Marthe. C'est l'église de la pauvreté absolue et d'état de ferveur maximum à l'intérieur de la pauvreté. Si on n'est pas dans un état de pauvreté, eh bien, la ferveur devient impossible. C'est la caractéristique de l'Église d'aujourd'hui. C'est vrai. Une petite phrase de Marthe, là. Dans le corps mystique de l'Église, ce sont les plus faibles de ses membres qui sont les plus nécessaires. Laissons encore la main divine creuser, appauvrir, tailler en secret dans le vif en vue des récoltes à venir. C'est l'état de pauvreté est devenu un état nécessaire, l'état de pauvreté intérieure. La retraite que nous allons faire, donc, elle va nous permettre, je l'espère, on va demander à l'Esprit-Saint très très fort, on va demander à Marie, on va prier les uns pour les autres, c'est sûr. On va demander qu'on puisse découvrir à l'intérieur de cette pauvreté qui est la nôtre, les surabondances de Dieu. Parce que le bon Dieu ne se servira pas de nous à cause de nos richesses, à cause de nos qualités, à cause de nos grâces. Le bon Dieu, dans l'Église des derniers temps, n'utilisera en nous que nos pauvretés. C'est une exigence. C'est une exigence du combat eschatologique final. Vous le savez, vous me verrez souvent parler du combat eschatologique final. Pourquoi ? Parce que le Saint-Père a considéré et a déclaré que nous rentrions dans le combat eschatologique final. Il a déclaré la guerre à cette culture de mort à Denver. Il a eu des paroles décisives, mais il en a eu presque tous les 3 ans, et pratiquement, il a signifié que l'Église rentrait dans le combat eschatologique, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. On rentre dans le combat eschatologique. Remarquez bien qu'on le savait, Mais dans le combat eschatologique final, ce qui caractérise le combat eschatologique final, il suffit de regarder, sans regarder trop, de faire de théologie ou je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire, j'ai une chose plus simple à faire. Je regarde Marthe Robin. Parce que c'est un petit peu ça que je voulais faire passer aujourd'hui. Ce soir, pour commencer, que nous regardions Marthe Robin. Marthe était un petit ruisseau extraordinaire, torrentiel, qui a fait capoter le monde entier. L'humanité a été retournée. À elle toute seule. Un bras de levier formidable. Et une porte a été ouverte. Et il y a quelque chose de fou qui a commencé avec Marthe. Et Marthe, vous voyez, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute sa vie? Eh ben, elle a vécu dans un état de pauvreté, je dirais pas maximum. Juste la tête qui vit, le reste du corps est mort, sauf pour la souffrance. C'est fou, quoi. Se nourrit que de l'Eucharistie, la nourriture la plus pauvre qui soit. Jésus pour dans un état de pauvreté absolue. Et à partir de là, eh ben, elle a relevé et elle donne un petit peu comme une icône de ce que l'Église doit vivre. En effet, vous le savez, ce que disait Marthe à propos de l'Église, elle est prophète, écoutons-la. Elle disait ceci, l'Église, ben, c'est tout simplement... c'est Jésus, c'est ce que disait Jeanne d'Arc. Pourquoi veux-tu faire une différence entre l'Église et Jésus? Entre Jésus et l'Église, il n'y a aucune différence. Entre Jésus et l'Église, l'Église et Jésus. Et effectivement, Jésus a connu, pendant les 36 ans de sa vie terrestre, il a connu, vous le savez, toutes les étapes de sa vie terrestre. Il a été persécuté enfant. Il s'est nourri des psaumes et des saintes écritures et des traditions des pères. Il a eu son âge adulte dans sa bar mitzvah à 12 ans. Il est resté caché, il a travaillé toute sa vie jusqu'à l'âge de 30. Ensuite, il a été missionnaire. Et ensuite, alors, l'Église a connu toutes ces étapes. L'Église a connu toutes ces étapes. Elle a été persécutée pendant les deux premiers siècles et demi. Et puis, ensuite, elle a connu l'âge des pères. Et puis, elle a eu sa maturité vers le bas Moyen-Âge, avant Charlemagne. Et puis après, eh ben, elle a travaillé. Elle a travaillé tranquillement. Elle a fait sa civilisation. Elle a imprégné la culture des valeurs, je veux dire, de la présence du Christ, c'est sûr, le rayonnement sacramentel du Seigneur, les saints, les pèlerins, la pauvreté acceptée, c'était beau, vous savez, c'était beau. Et c'était pas du tout dans la paix absolue, le démon était là. Et puis, l'Église a connu sa période apostolique, vous savez qu'elle a été missionnaire, 19e siècle. Et c'est intéressant, enfin, Jésus est juste au milieu, si je puis dire, de cette période missionnaire. Et Marthe disait, ben voilà, l'Église rentre dans la dernière semaine. Nous rentrons dans la dernière semaine de l'Église. Le pape aussi le dit, n'est-ce pas? Nous rentrons dans la dernière semaine de l'Église. Bon, ben voilà, c'est très très bien. Or, qu'est-ce qui se passe? Or, c'est quand même dans la dernière semaine, Jésus, pendant par exemple sa période apostolique, il a fait des choses formidables. Il a ressuscité Lazare, il a guéri des centaines de milliers de malades, il s'est fait reconnaître comme le Messie par tout Israël. Ça a été fou, quoi, la vie de Jésus, c'était formidable. Il marchait sur les eaux, il a révélé à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Qui était le Père et qui était le Fils et qui était l'Unité, qui était l'Esprit-Saint. Et tout de même, il a donné aussi, c'était fou, mais ce n'était rien, ça, à côté de ce qu'il a donné dans la dernière semaine. Il a donné sa vie par miséricorde pour le peuple de Dieu. Et à sa mort, il est rentré, à l'heure de sa mort, il a donné sa grâce à ceux qui n'étaient pas de son peuple, c'est-à-dire nous. Il a fallu attendre ce qui se passe après sa mort pour qu'il fasse l'œuvre principale, ou même unique œuvre pour laquelle il était venu. Tout ce qu'il avait fait avant a été compté pour rien à ses yeux. Et aux yeux de l'Église, c'est seulement après sa mort, dans les 36 heures qui ont séparé sa mort et sa résurrection, que tout s'est fait. Il n'y a pas de lui qui rentre dans un état de pauvreté, je m'excuse du mot, de pauvreté substantielle. Ça c'est joli ça, mais ça, c'est pas pour en jeter plein la vue, hein. Non, c'est parce que c'est vrai. Il rentre dans un état de pauvreté substantielle. Il était mort. Alors, étant mort, il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé quelque chose de complètement étonnant. Il s'est passé ceci, il s'est passé que cette pauvreté a été source de la gloire, de toute la gloire de Dieu à travers son corps. Jusque-là, il n'avait pas glorifié Dieu. Il a fallu qu'il attende. C'est très important ça, de se rappeler de ça, parce que on n'incite pas assez. Saint Augustin est très net là-dessus. Et pas seulement Saint Augustin, vous comprenez, mais Saint Augustin c'est le premier, là, c'est bon ça. Mais c'est tous les sacrements, toute la grâce surnaturelle, toute l'adoption que Dieu fait des pécheurs que nous sommes pour nous transformer en unique fils de Dieu. Tout ça, ça s'est fait après la mort de Jésus. Un coup de lance. Et Saint Jean dit, il est sorti de l'eau, il est sorti du sang, il est sorti l'Esprit Saint. Jésus ne nous intéresse que à cause de ça. Et le Père ne veut qu'on s'approche de Jésus que là. Fais-toi capacité, je deviendrai ton. Tous les sacrements, vous voyez par exemple quand on communie à l'Eucharistie, vous touchez, nous touchons quoi? Nous touchons qui? Nous touchons la blessure du cœur de Jésus après sa mort. C'est là que jaillissent tous les sacrements, dans tous les temps, dans tous les lieux. Que jaillissent les fécondités infinies et suprêmes de l'amour du Christ qui nous envahit, qui nous prend, qui nous étreint, qui nous saisit. C'est là que jaillit cette espèce d'attraction irrésistible du Père vis-à-vis de ce qu'il y a de plus lamentable en nous. C'est là que jaillit, les capacités de transformation de tout notre univers. Parce que l'Esprit Saint, est donné aux pécheurs par la foi, l'espérance et la charité, et il ne sera livré à la transformation qui lui est propre en tant que créateur qu'à travers les pécheurs, s'ils vivent dans le cœur sacré de Jésus, dans la blessure du cœur. Et j'aimerais beaucoup, personnellement, que, à l'occasion de cette retraite, ça devienne extrêmement clair pour nous. Que nous sommes coincés. On n'a pas d'autre voie. Il faut qu'on fonce dans cette direction. N'est-ce pas? Il faut qu'on rentre dans le cœur de Jésus mort sur la croix. L'Église doit passer par cette étape-là. Le corps mystique de l'Église doit passer par cette étape-là. Vous voyez, l'icône de Marthe, c'est ça. L'Église, le Christ est vivant, c'est la tête, et le corps est mort. Et c'est à partir de ce corps que tout le sang de Jésus vivifie tout l'univers dans le tombeau de sa chambre, dans le sépulcre. C'est les 36 heures, ces 36 heures qui se passent entre la mort et la résurrection, c'est l'heure de l'Église d'aujourd'hui. Et donc, il y a une modalité, il y a une manière de vivre de l'adoration vis-à-vis de Dieu, de vivre de l'union à Dieu, de vivre des sacrements, de vivre de la foi, de vivre de l'espérance, de vivre de l'amour fraternel qui est très très particulier. C'est toujours la même foi, c'est toujours la même espérance, c'est toujours la même charité, mais elle rentre dans un contexte totalement différent. C'est le conditionnement qui change. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans notre méditation. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va nous permettre de rentrer dans ce grand élan dans lequel Jésus nous a choisis pour ça. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de, hein, que l'artichaut, hein, il en sort. On va mettre le cœur à nu, vous comprenez? Alors toutes les feuilles, elles tombent. Hein, alors il y en a plein. Moi j'aime bien, quand vous mangez des artichauts, vous pensez à ça. Ça c'est l'Église d'aujourd'hui. Tout fout le camp. Et puis alors après, il y a des poils, vous savez, c'est pas bon ça. Alors, ça arrache sous les poils. Il ne reste plus que le cœur. Ouais. Vous mettez de l'huile et du vinaigre. Ah oui. Et l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église des tout petits. Dépouillés. Reste plus rien, même plus les poils, rien, pas de vêtements. Il n'y a plus rien que cette pauvreté absolue. Et il faut l'aimer, vous comprenez? Jésus a aimé. Il n'est venu que pour ça. Et donc il faut découvrir en nous nos pauvretés de fait, puisque c'est dans nos pauvretés de fait que peut jaillir l'espérance. Si nous n'acceptons pas nos pauvretés de fait, nous ne pouvons pas rentrer dans l'espérance. C'est impossible. Donc la première chose, c'est de découvrir que nous ne pouvons plus nous appuyer sur nous. Qu'on ne peut s'appuyer que sur la grâce. Que sur la vie surnaturelle. Que sur la vie divine, que nous ne pouvons plus rien faire et que cependant nous devons, d'une manière très active et très féconde, laisser Dieu opérer. De manière que nous soyons entièrement livrés à Dieu et que c'est lui qui agisse. Mais si nous n'avons pas découvert notre pauvreté la plus absolue, on ne peut pas faire cet acte d'espérance. Et donc, c'est ce que nous allons regarder. Nous allons regarder quelque chose de très extraordinaire, de comprendre que on rentre dans un temps de l'Église, nous sommes choisis, si je puis dire, nous sommes choisis par Dieu. C'est une chance dingue. Moi, je trouve ça génial. Moi, c'est juste ça, complètement fou, quoi. Qu'on soit choisi par le bon Dieu, si vous voulez, pour rentrer dans l'Église au moment où l'Église rentre dans son heure. Jésus, bon, d'ailleurs, il le disait, hein. Je respecterai pas toujours les horaires. Il le disait, Jésus, mais enfin, jusque ça, quand resterai-je avec vous, enfin, qu'est-ce qui me tarde, etc. Oui, parce qu'il a 36 ans, lui, il était impatient qu'il y ait, qu'il y ait ce don de l'Esprit-Saint, qu'il y ait ce don du sang à travers son corps mort. Et une impatience terrible, une impatience folle, complètement. Et c'est l'impatience de l'Église. Voilà 2000 ans que l'Église attend son heure. Et cette heure, eh ben, elle est pour nous. C'est notre heure. C'est nous qui allons avoir cette chance, cette grâce extraordinaire, vraiment extraordinaire, que Dieu puisse être enfin présent de manière féconde, rayonnante et incarnée dans le monde entier, à travers l'Église, à travers nous. Ah oui, alors c'est dans cette spiritualité de la toute petitesse, féconde à l'infini, qui relève l'humanité tout entière, toute une jeunesse perdue, toute une création abîmée, etc. C'est ça la grâce de l'Église d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, nous allons essayer de comprendre ça.